sur le bout de la langue. Ça va faire des histoires. Une émission proposée par Virginie Komaniecki.
Je suis entrée dans une forêt sans arbres, la tête la première. J'ai suivi un fil d'eau intarissable. Il m'a tout raconté, sans dire un mot. À la source des sources, j'ai vu se mélanger des récits de partout, de longtemps, de toujours. Il parlait avec aujourd'hui et demain les écouter. Alors, à pleine bouche, j'ai puisé. J'ai tourné ma langue cette fois. Tu me crois ? Tu ne me crois pas ? Pourtant, c'est là. C'est sur le bout de ma langue. AT-333, c'est le code attribué au petit chaperon rouge dans la classification internationale des contes établie par Ante Arne et Stis Thompson. Bien avant que Perrault n'en fasse littérature pour la cour du roi, il existait en effet à travers le monde de nombreuses versions orales populaires du conte. Et lorsqu'on y plonge l'oreille, on s'aperçoit que, bien plus qu'un conte d'avertissement, il s'agit en fait d'un puissant conte d'initiation.
Le petit chaperon rouge trottinait dans les grands bois. Quand soudain une ombre bouge, c'est un loup, un gros loup à l'œil sournois, qui se dit en voyant la gamine, j'ai besoin de vitamines, je vais faire un bon petit repas froid.
Tire, tire, tire la chevillette, tire et la bobinette chéra.
Où allez-vous donc, fillette ? Lui demande le loup gourmand. Je vais porter une galette et un petit pot de beurre à ma mère grand. Qui habite cette maisonnette ? Allez vite, mignonnette. Et merci, merci pour le renseignement.
Tire, tire, tire la chevillette, tire et la bobinette chéra.
Tandis qu'elle cueille des noisettes, il court vite chez la mère grand. Et d'un seul coup de fourchette, il avale presque toute la bonne maman. Pour la tête se fait une vinaigrette, mes chemises, bonnet, lunettes. Puis se couche dans le lit en ricanant.
Tire, tire, tire la chevillette, tire, tire la bobinette, j'ai là.
Toc, 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 vient la pauvrette qui annonce à sa mère grand, je vous apporte une galette et du beurre que vous envoie ma maman. Ouvrez vite à votre mignonnette de sa voix la plus fluette, le loup crie imitant la vieille maman.
Tire, tire, tire la chevillette, tire et la bobinette chéra.
Elle entra dans la chaumière, s'écria en la voyant, que vos bras sont longs, grand-mère, c'est pour mieux, mieux t'embrasser, mon enfant. Que vos yeux, vos oreilles, vos molaires ont grandi, bonne grand-mère, c'est pour mieux, mieux te manger, mon enfant. Mais le petit chaperon pas bête, se rappelant la fin de l'histoire, prit une grosse clé à molette et lui ferma soigneusement la mâchoire. Puis doucement, au loup bavant de colère, je t'ai laissé bouffer, grand-mère, mais faudrait tout de même pas me prendre pour une poire. Le petit pot et la galette, c'est chaperon qui les mangera. Il faut toujours, ma grosse bête, méfier d'un plus petit que soi.
Tire, tire, tire la chevillette, tire et la bobinette chéra. Tire, tire, tire la chevillette, tire et la bobinette chéra.
La version du petit chaperon rouge, vous connaissez ça? Ah, n'a le loup qui arrive à la porte de la mémé, puis qui fait Pompon, qui est là? Oh les mains, qui veut porter nos meuilles, attends! En français, c'est moi qui vais apporter du millet à toi, Oug. La mémé ouvre la porte, Oug saute sur la mémé, le la prend, le la mange. Vous connaissez? Mais le garde un petit peu de viande, que le met dans une assiette creuse, et un petit peu de sang, que le met dans une bouteille 5 étoiles consignée. Et il enfile la chemise de nuit de la mémé qu'elle avait réussi à pas tacher de sang, ça demande des années d'expérience. Et puis là, je mets dans le lit, puis il attend. Puis là, on a le petit gars, puis le frère et la sœur qui arrivent. Dans cette version, on a le frère et la sœur. Ils arrivent à la porte, puis ils toquent à la porte. Popon, qui est là, on est moi, qui veut porter nos meuilles. Attends. Ah, mais te vois la muse. Passe ta tête, ma tête est pensée. Passe tes épaules, mes épaules sont pensées. Passe ton ventre, mon ventre est pensé. Passe ton fer, mon fer a pensé. Passe ta jambe, mes jambes sont pensées. Et puis là, dans la mémé, la mémé. Mais vous savez qu'elle n'est pas la mémé, hein, vous en savez, vous. Hein? Alors que les petits-enfants qui arrivent, ils ne le savent pas. Vous avez donc une avance sur eux. Et là, dans la mémé qui leur dit, « Ah, ben vous devez avoir faim et puis soif, on a tout ce qu'il faut à manger dans le frigo. Mangez et buvez un peu. »
Voici pour commencer la trame d'une parmi les versions orales populaires de ce conte, version nivernaise collectée par Achille Millien. Elle avait confié à sa fille des sabots de fer en disant « Tu pourras traverser le bois toute seule et te rendre chez ta grand-mère quand tu auras usé tes souliers. » Alors la petite, pendant des années, use et racle et frotte les souliers. Enfin vient le jour où la mère lui confie un panier avec une galette et une bouteille de lait apportée chez sa grand. Et voilà la petite qui file dans le bois. En cours de chemin, elle rencontre le bzou. « Où vas-tu ? » demande celui-ci. Ben, « Je vais chez ma grand. » « Et pour ça, tu prends le chemin des épinglettes ou celui des aiguillettes ?»« Je prends celui des aiguillettes. Ah, »« Alors je prendrai le second, » dit le bzou. Il court, arrive le premier chez la grand, la mange, met sa viande dans une bassine et du sang dans une cruche. Quand la petite arrive, le bzou, imitant la voix de la grand, l'invite à passer par la chatière et elle s'y glisse, les pieds devant. Le bzou l'invite à manger la viande et à boire le vin, le sang de la cruche. Et tandis qu'elle boit et mange, des voix par la cheminée, puis la voix du chat de la maison disent « Pu, salope, qui mange la chair et qui boit le sang de sa grand !» Le bzou l'invite alors à venir se coucher. « Mets tes vêtements au feu, dit-il, tu n'en auras plus besoin. » Quand elle est couchée, elle dit au bzou « Ma grand, comme vous êtes poilouse, comme vous avez de grands yeux, comme vos ongles sont grands. » « C'est de vieillesse, » répond le bzou. « Et vos dents, comme elles sont grandes, vos dents, c'est pour mieux te manger, » dit le bzou. « Ma grand, » dit l'enfant, « je vais aller dehors parce que j'ai besoin de fer. » « Fais dans le lit, » dit le bzou. Mais la petite insiste et le bzou lui explique que dehors c'est tout noir, alors il lui attache un fil de laine à la cheville, expliquant qu'ainsi elle ne se perdra pas. Dehors, elle s'en va attacher le fil à un arbre et elle fuit. Le bzou l'appelle. « Tu fais des cordes ou quoi ?» Il sort, voit le fil, se lance à la poursuite de la petite. Elle court toute la nuit et au matin, elle arrive à la rivière où des lavandières battent leurs draps. Les lavandières tendent un drap sur l'eau pour aider la petite à traverser. Le bzou, à sa suite, demande un drap à son tour. Le drap coule, emportant le bzou. Et la petite est passée de l'autre côté. Pierre Herny, ancien directeur de l'Institut ethnologique de Strasbourg, apporte sur ce conte quelques éclairages dans La Grande Oreille. Dans la version nivernaise, qui est assez représentative des versions populaires, il n'y a ni trace de chaperon, ni de couleur rouge. La fillette est envoyée chez sa grand-mère pour lui apporter du pain. À un carrefour, elle rencontre un bzou, c'est-à-dire un loup-garou. Ailleurs, c'est un vrai loup, un autre animal, un diable, ou un homme laid. Pour aller chez l'aïeul, deux chemins s'offrent à elle au choix. Celui des aiguilles, et celui des épingles. Une version populaire parallèle précise les choses en parlant du chemin des épingles avec lesquelles on peut s'attiffer et du chemin des aiguilles avec lesquelles il faut travailler. Il y a donc manifestement référence au monde de la couturière chez qui les jeunes filles avaient coutume d'aller faire des stages. Ah, la mauvaise saison, ou encore de la dentelière. Comme l'écrit Yvonne Verdier, le chemin de l'épingle est celui de l'apprentissage de la couture, donc de la puberté et des jeux amoureux. Le chemin des aiguilles est celui du travail, du raccommodage et de la condition féminine mariée. Arrivé le premier chez la grand-mère, le bzou tue celle-ci et met soigneusement à part la chair et le sang. Quand arrive la fillette, il l'invite à manger et à boire ce qu'il a ainsi apprêté. Et une petite chatte, ailleurs un oiseau ou un ange, l'avertit de la vraie nature du repas. Mais le monstre a hâte de la voir se déshabiller et venir dans son lit. Il lui demande de jeter au feu l'un après l'autre les vêtements qu'elle porte sur elle, sous prétexte qu'elle n'en a plus besoin. S'engage alors un dialogue autour des attributs physiques de la fausse grand-mère, pilosité, ongles, oreilles, épaules, trous de nez, bouche. Cet échange représente l'élément le plus constant au sein des différentes versions, tant populaires que savantes, qu'une pensée bricoleuse se plaît à réutiliser dans les contextes les plus éloignés. Et l'histoire s'achève sur une happy end, ce qui est loin d'être toujours le cas. Prétextant d'avoir besoin de faire et refusant de faire au lit, la fillette parvient à se débarrasser de la corde qui l'attachait et à se sauver, toute nue, par la force des choses, vainement poursuivie par le bzou. Remarquons qu'il s'agit d'une fuite et nullement d'une résurrection. Le conte du petit chaperon rouge est avant tout une histoire de femme. Grand-mère, mère, fille. Quand une femme devient mère, elle fait de sa propre mère une grand-mère. Le jeu cruel par lequel, en grandissant, on pousse ceux à qui on doit la vie vers la tombe est inhérent à la condition humaine et on ne peut y échapper. Rien d'étonnant donc à ce que, dans les récits de tradition paysanne, il y ait toujours au moins une victime, la grand-mère, qui est la plus exposée. Mais une initiation, ce n'est pas seulement le passage d'une étape à l'autre, c'est aussi un apprentissage. Or, à y regarder de plus près, le petit chaperon rouge en a appris des choses en allant dans la petite maison de la vieille femme au fond de la forêt. Cuisiner, se dénuder, coucher avec, absorber le pouvoir génésique de la gueule en la mangeant et accéder ainsi au rang de femme. Quant au séjour dans le ventre du loup parfois, il correspond à un temps de maturation. En sortant du ventre, elle sait. Au moins ce jour-là, elle n'aura pas perdu son temps.
Yeah, قلتني ما يلي غيبها
وكل الوحش لعبها ففين وفين وفين
وبالغول اذنكني ما يلي غيبها سود في بورا ثقيك شمن سحلولا جمعت تسرقو تفسو ثقور يذرا حجما فلي سود في بورا ثقيك شمن سحلولا جمعت تسرقو تفسو ثقور يذرا حجما ملاق جمورا قزف في ذكرا كيني ذنين ملال داكوات وخامث ما شاهو تسلا ملاق جمورا قزف في ذكرا كيني ذنين ملال داك واث وخامث ما شاهو تسلم
يا لا لا يا لا لا
ملال داك واث وخام
يا لا لا يا لا لا
ما شاهو تسلم
صدق اللي انت بورده بابين وبعاب بابين وبعاب
جنشن تيز بقاثيني ما يلي غريب غاب
وكل الوحش العاب
غريبها
Chaque matin, la petite Aïcha prépare un plateau. Elle pose dessus un gros plat de couscous, une théière remplie de thé à la menthe chaud, sucré et parfumé. Prend le plateau, pousse la porte et prend le chemin et marche, 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 monte la colline pour aller jusque chez son grand-père Bouissa. Son grand-père Bouissa, il est tellement vieux, tellement fatigué qu'il ne peut plus bouger. Chaque matin, quand elle arrive devant la porte du grand-père, toc, 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 elle frappe trois coups et elle chante. Mon grand-père Bouissa, ouvre-moi la porte, ouvre-moi la porte. Ah, ma petite Aïcha, si c'est toi, alors tu n'as qu'à faire sonner ton semainier. Le semainier, ce sont les 7 bracelets qu'Aïcha a autour du poignet, 7 comme les 7 jours de la semaine. Et ting, 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 quand le grand-père entend tinter les bracelets, il tire une corde, la porte s'ouvre, la petite Aïcha entre, pose le plateau, et tous les deux mangent, mangent, parlotent, papotent, prennent des nouvelles, prennent soin. Et le repas terminé, Aïcha Ramastou ressort de chez son grand-père. Ce matin-là, il y en a un qui a tout observé. Un qui était caché derrière un rocher. Un haut comme 3 hommes, avec des dents qui lui descendent jusqu'en dessous du menton et la bave qui coule le long des dents. Bon sang! Le grand-père Bouissa. Et puis la petite Aïcha. Et le lendemain matin, bien avant la petite Aïcha, l'ogre marche jusque chez le grand-père. Frappe à la porte. Boum, boum, boum. mon grand-père Bouissa, ouvre-moi la porte, ouvre-moi la porte. C'est pas la peine, l'ogre, je t'ai reconnu. Oh. Et l'ogre s'en va. Vers la forêt, marche jusqu'à une petite maison. Au-dessus de la maison se penche. Maman! Et la maison s'ouvre Une petite femme toute vêtue de noir sort de la maison et flottant au-dessus du sol, elle monte et s'élève jusqu'au visage de son fils. « Mon fils, qu'est-ce que tu as dit à ta mère ?»«
Oh, j'aimerais bien manger le grand-père Bouissa et la petite Aïcha, mais j'y arrive pas. » »«
Eh, pour ça, mon fils, il faut que tu te serves de ta tête. Écoute-moi bien. Tu vas aller trouver la maison des abeilles. » Tu vas casser cette maison sur ton visage et laisser couler le miel sur toute ta figure. Et puis tu vas t'allonger et tu ne vas plus bouger. Pendant 7 jours et 7 nuits, tu ne vas plus bouger. Et au bout de 7 jours et 7 nuits, tu pourras y aller. Et puis prends cette petite chaîne, elle te servira aussi. Alors l'ogre a pris la petite chaînette que sa mère lui donnait et l'a mis dans sa poche. Et puis, il est allé chercher la maison des abeilles, il l'a cassée et le miel sur sa figure a coulé et l'ogre s'est allongé et pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il n'a plus bougé. Ri-ki-tik-tik-tik, des fourmis sont arrivées. Ri-ki-tik-tik-tik, hey, les filles, il y a plein de miel, ouais, on a vu. Ri-ki-tik-tik-tik, on commençait à manger. Tic, tic, tic. Eh, hey, il y a 2 petites grottes là, on y va? Ah ouais, on y va, ça a l'air chouette. Riki, tic, tic, tic. Ah, le miel à l'intérieur, il est beaucoup moins bon. Ouais, c'est vrai, mais c'est pas grave. Riki, tic, tic, tic. Sont descendus jusque dans la gorge de l'ogre. Et riki, tic, tic, tic. On mangeait tout le gras de la gorge. Au bout de 7 jours et 7 nuits, l'ogre se réveille. Étire ses bras.
Ah, j'ai bien dormi.
Se lève. Va jusque chez le grand-père, sur la pointe des pieds. Et du bout de son ongle, toc, toc, toc.
Mon grand-père Bouissa, ouvre-moi la porte, ouvre-moi la porte.
Ah, ma petite Aïcha, si c'est bien toi, alors fais tinter ton semainier.
Et l'ogre prend la chaînette que sa mère lui avait confiée. Tching, 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 tching. Le grand-père tire sur la corde, la porte s'ouvre, l'ogre entre et... Mange le grand-père et reste assis dans un bain de sang sur le sol de la cabane du grand-père. Et avec ses grosses dents, tape le sol.
Hein, le grand-père, c'était bon, mais la petite Aïcha, bon sang, la petite Aïcha.
Ce matin-là, la petite Aïcha a préparé un plateau, a posé le couscous sur le plateau et puis la théière remplie de thé à la menthe chaud et parfumé et bien sucré. Et monte, monte, monte jusqu'à la colline, arrive devant la maison du grand-père, mais au moment de taper à la porte, ses narines captent un parfum de fer et de sang mêlé. Alors elle fait le tour. Elle va jusqu'à la fenêtre et regarde, et là elle voit assis dans une flaque de sang l'ogre qui de ses grosses dents tape le sol. Tape le sol et tape le sol encore. Alors la petite court, 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 va jusqu'au champ où travaillent ses parents. Elle va les chercher, les parents appellent les copains, les voisins des copains, les copains des voisins, les voisins des copains des voisins. Tout le monde amène de quoi faire flamber un beau bûcher. On barricade la porte, on entoure la maison, on allume le feu. Et dans un puissant brasier, on entend l'ogre hurler, hurler, hurler. Et sous la porte, ri-ki-tik-tik-tik-ki-tik-tik-tik. Tic, 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 une procession de fourmis en train de s'échapper. Toute la nuit, le bûcher a flambé. Toute la nuit, on a fêté le village libéré. Toute la nuit, jusqu'à ce qu'un tas de braises se forme. Toute la nuit, jusqu'à ce qu'au petit matin, un puissant chêne prenne la place de la maison du grand-père. Le temps a passé. Il ne se passe pas un seul jour sans qu'Aïcha, depuis ce jour-là, n'aille dès le matin saluer le chêne, qu'elle n'aille poser son dos contre l'écorce du chêne et qu'elle y puise sa force. La force du souvenir qui circule dans sa sève et puis cette force qui enracine à la vie et qui pousse un peu plus loin chaque jour sur le chemin.
La 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 tout dit, tout dit. J'ai terminé ma phrase, tout dit, tout dit, tout dit.
J'ai attrapé ce petit chaperon rouge kabyle dans le tour du monde d'un conte dont le collectage a été réalisé par la conteuse et le conteur Fabienne Morel et Gilles Bizouerne pour les éditions Syros. Le conteur belge Fahem Abbès en raconte également une version sur sa chaîne YouTube Les Contes de Fahem Abbès. La chanson Didir, Avava Inouva, a été écrite en appui sur ce conte traditionnel kabyle. Bien plus qu'une chanson, le titre a quasiment le statut d'hymne. Pas seulement pour les Algériens, les Kabyles ou les Berbères, mais pour tous les Maghrébins. Qu'ils vivent à Alger, à Paris ou à Casablanca, tous ont des souvenirs liés à ce titre qu'ils connaissent le plus souvent par cœur et qui les émeut parfois jusqu'aux larmes. En Kabylie, la chanson fut accueillie avec beaucoup d'émotion. Elle engendrait à la fois un sentiment de reconnaissance d'une tradition profondément ancrée et un sentiment de nouveauté. La chanson a également fourni un contrepoids subtil mais important au discours de l'État algérien qui valorisait fort peu la culture berbère dans ses projets de modernisation. L'ogre de la chanson fut pour beaucoup interprété comme une représentation du pouvoir d'Alger. Avec cette chanson, la voix d'Idir devient celle d'un peuple spolié de son identité. Grâce à ce succès, les Berbères d'Afrique du Nord sont de nouveau visibles, audibles et fiers de leurs racines. Avec une guitare et une chanson, Idir leur a ouvert la porte de la liberté et de la dignité et a prouvé qu'on pouvait faire une révolution en chanson, pacifiquement.
Connais-tu l'histoire que me racontait ma nounou? C'est une belle histoire que j'écoutais sur ses genoux. Si le cœur t'en dit, ma jolie, écoute-moi, je vais te la dire à mi-voix. Elle était une fille douce et tendre comme toi, tout aussi gentille, se promenait dans les bois. Et voilà soudain qu'en chemin, elle aperçoit le grand méchant loup aux abois. Ouh, cha-cha-cha du loup. Cha-cha-cha du loup. Ouh, cha-cha-cha du loup. Tu es encore à l'âge où les filles ont peur de nous. Tu es bien trop sage pour venir sur mes genoux. Mais je t'aime bien, ne crains rien, approche-toi, je ne te mangerai pas. Ne sois pas cruelle, viens dans mes bras, ma jolie. Viens plus près, ma belle, et ne tremble pas ainsi. Je ne te ferai aucun mal, je ne suis pas le grand méchant loup aux abois. Ouh, cha-cha-cha de loup. Ouh, cha-cha-cha de loup. Ouh, cha-cha-cha de loup.
Au fil de cette émission, vous avez pu entendre un extrait de la version du Chaperon Rouge racontée par le conteur Yonick Jolin et extraite de son spectacle Conteur, Conteur, et puis quelques sources tirées du numéro de La Grande Oreille de mars 2011 entièrement consacré au petit Chaperon Rouge. Toutes les références, musiques et sources sont sur la page de l'émission. Voilà. Sur le bout de la langue, c'est fini pour ce mois-ci. Je remercie Pauline Lemaire-Desmarais et Harmonie Perrault pour la réalisation. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission sur les ondes de Radio-La.